Bonjour à tout le monde. Content d'être avec vous, avec mon épouse. Mais je remercie mon gendre. Je ne dis pas beau-fils parce que beau, ça me gêne. Je remercie mon gendre de nous avoir invités. Avant, il fallait aller à Ajaccio. Bon, c'était toute une affaire. Maintenant, c'est un peu plus facile pour nous puisque nous habitons Digne-les-Bains. Donc, à 2 heures, on est à Digne et on vous apporte tout de suite les salutations des Dignois qui savent que nous sommes là et qui, vous priez pour les autres églises, ben, nous aussi. Et donc, voilà, nous sommes heureux. Je suis effectivement pasteur retraité, une retraite un peu fictive quand même. J'aide le jeune pasteur Christophe Sierra sur Digne et ça se passe très bien. Alors je dis tout de suite à notre frère cinéaste le verset parce que j'avais oublié de vous les donner. C'est Matthieu 26, 30. Est-ce que c'est trop fort? Parce que moi j'ai beaucoup de retours ici, c'est assez fort pour moi. C'est trop fort? Je mets un peu plus loin. Donc, je commence ce matin par un quiz. Alors ça, c'est encore un mot anglais. Vous avez compris que je ne suis pas tout à fait français. Pas du tout même. Je suis un bon Britannique. Mais avec le Brexit, je suis un migrant maintenant. Non, mais on est gêné un peu. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, mais je suis en France depuis fort longtemps. Et la plupart de vous n'étiez pas nés quand je suis venu en France depuis 1964. Et je me rappelle très très vaguement dans les premières années que je suis venu, j'étais même pas marié à l'époque, et pourtant ça fait 47 ans qu'on est mariés, que je suis venu à Arles pour une rencontre du temps de M. Teneroni. Que certains l'ont connu. Je crois que le frère est décédé, non? Et non, je me trompe. Il est décédé, oui. Non, il n'est pas décédé. Bon, peu importe, lui doit le savoir, c'est l'essentiel. Oui, je suis donc pas tout à fait à la page pour ces nouvelles. Mais ce n'était pas ici, évidemment, dans cette salle. Et je vous félicite. Merci Seigneur pour cette jolie salle que vous avez avec le parking, parce que ça, c'est important. Quand une église n'a pas de parking au centre-ville, c'est très gênant. Et c'est éprouvé d'ailleurs que parfois c'est une source c'est quelque chose qui freine l'accroissement de l'église. Ça semble stupide, mais c'est comme ça. Une église où il n'y a pas de parking, les gens y vont ailleurs où il y en a. Mon quiz ce matin, je vous pose la question, quel est le livre le plus long de la Bible? Les psaumes, j'ai entendu, correct. Est-ce que vous savez combien il y en a? 150, correct. Le psaume le plus long, c'est le psaume 119 que je vais vous lire maintenant. Non, parce que là, ce serait, il y a 176 versets, je crois. Le psaume le plus court, c'est le psaume 117, il n'y a que 2 versets. Maintenant, dernière question, mais question piège. Combien d'auteurs des psaumes? Combien d'auteurs? Je vois que même mon gendre, malgré sa connaissance encyclopédique biblique, eh bien, n'a pas la réponse. Et la réponse est tout simplement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, parce qu'il y avait 49 anonymes. Donc déjà, et après, les 101 qui restent, il y a 73 pour David. Alors, s'il y a des Belges parmi nous, c'est 73. Il n'y a pas des Belges parmi nous. Non, mais... Il y a 12 d'Asaph, 2 de Salomon, 1 de Moïse. Alors, Moïse a beaucoup écrit ailleurs, puisqu'il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Ça fait pas mal, Mais un seul psaume de lui, c'est le psaume 90. Il y a un de Étam, je ne sais pas comment ça se prononce, Étam, un personnage peu connu, on verra ça, et 12 des fils de Corée. Mais puisque c'est des fils au pluriel de Corée, ben encore une fois, nous ne savons pas exactement combien ils étaient. Ils étaient au moins deux, hein, mais peut-être davantage. Et ce matin, j'ai pensé, eh bien, si le verset est... Alors, c'est juste avant de partir avec ses disciples, après tout ce que Jésus a fait dans la chambre haute, eh bien, après avoir... Alors, il y a un petit « a » qui manque, là. Après voir, c'est « avoir ». Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et les cantiques, en fait, dans certaines traductions, c'est marqué les psaumes. C'est marqué les psaumes. Et ce verset est intéressant, justement, je vous l'ai dit en passant, parce que c'est la seule et unique fois où il est fait mention dans la Bible que Jésus a chanté. Je ne doute pas que Jésus a chanté ailleurs, peut-être même souvent, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais ça, c'est le seul verset où il est dit spécifiquement que Jésus a chanté avec ses disciples. Et ils ont chanté quelques psaumes, on ne sait pas exactement lesquels, on soupçonne. Mais ce matin, mon message, eh bien, c'est regarder très très rapidement, parce que sinon on est là jusqu'à 16 heures. Marquez, je peux continuer jusqu'à 16 heures. Non, ben je ne le ferai pas quand même. Hein? Un survol très rapidement de ce qui est peut-être le plus important. Enfin, c'est un peu subjectif parce qu'il y a des opinions, on n'est pas forcément de la même opinion. Mais pour moi, eh bien, je vais regarder très rapidement chacun des auteurs des psaumes que nous connaissons et essayer en deux, trois lignes de voir, pour nous encourager, pour nous aider, hein, c'est le but, de voir un petit peu en résumé quelle est peut-être la chose la plus importante qui nous frappe, enfin qui m'a frappé à moi, vous peut-être. Alors, voilà. Donc, il y en a d'abord Moïse. Lui n'a écrit donc un seul psaume, c'est le psaume 90. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Moïse en deux, trois mots? C'est difficile cela, parce que Moïse est quand même un des personnages importants de la Bible, le moins qu'on puisse dire. Hein? À lui seul, il a écrit les cinq premiers livres de la Bible, inspirés par le Saint-Esprit. Oh, il n'a pas fait une seule fois, évidemment. C'était certainement sur de nombreuses années, mais quand même. Mais un seul psaume. Et si on avait à résumer en quelques mots les choses importantes de Moïse, moi je dirais que c'est l'homme du sursis, c'est l'homme qui a eu une deuxième chance. Rappelez que la vie de Moïse, il a vécu 120 ans. À l'époque, ça c'était... C'était un peu normal, 120 ans. Et sa vie se divise en trois parties. La première partie, il était à la cour du roi d'Égypte et ça finit un petit peu, si j'ose le dire, en queue de poisson. Il est devenu meurtrier, il avait de bonnes intentions, mais mal dirigé, il était obligé de prendre la fuite. Et donc, à l'âge de 40 ans, il est parti se cacher pour échapper à la rétribution, à l'arrestation. Ensuite, pendant 40 ans, ben, on n'entend plus, pratiquement plus parler de lui. Il se marie avec une Africaine, une Éthiopienne. Donc, je suppose qu'elle était noire. Hein? Hein? Ensuite, à l'âge de 80 ans, nous retrouvons Moïse avec le troupeau de son beau-père. Ça sous-entend que lui n'avait pas grand-chose. Il travaille encore pour son beau-père. Alors, remarque ça, Cyril. Hein? Et à 80 ans, alors que la plupart des gens de 80 ans ne pensent qu'à prendre la retraite, ne plus rien faire, eh bien, son ministère véritable commence. Et pendant 40 ans, eh bien, Dieu l'appelle à diriger le peuple, à les sortir d'Égypte, à traverser le désert, les amener dans le pays promis. Donc, pour moi, eh bien, Moïse, c'est l'homme de la deuxième chance. Il a fallu, pendant 40 ans, tout le monde l'avait oublié, pour ainsi dire. Et à 40 ans, à l'âge de 80 ans, tout d'un coup, il commence son véritable ministère pour le Seigneur. Alléluia. Alors moi, ça m'encourage parce que je n'ai pas encore les 80 ans. Hein? Donc, je n'ai pas encore commencé, pour ainsi dire, si Dieu le veut. Mais sérieusement, Dieu lui a donné une deuxième chance. Et peut-être parmi nous, ce matin, y a-t-il des gens qui ont tout raté, d'une façon ou d'une autre, même en tant que chrétien. Peut-être que, oui, vous avez tout raté. Il y en a, plus qu'on ne le pense même. Et bon, ben, ça foiré, pour diverses raisons. Peut-être que c'est votre faute, peut-être que ce n'est pas votre faute. Mais ça n'a pas, c'est pas allé. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous pouvez redémarrer avec le Seigneur. Eh bien, Dieu est le Dieu qui nous donne une deuxième chance. Nous pouvons avoir un sursis. D'ailleurs, vous avez devant vous qui vous parle. Moi, je suis en sursis, pas en souci, mais en sursis. Pourquoi ? Mais figurez-vous qu'il y a 20 ans, eh bien, j'avais quelques problèmes de santé. Et en même temps, j'ai reçu de mon ancienne école en Angleterre un genre de bulletin circulaire où il y avait des nouvelles des camarades de classe que j'ai connus, beaucoup je n'ai pas connus, puisque ça couvrait plusieurs années, et certains j'avais oublié leur nom, et j'ai remarqué parmi la liste certains qui étaient décédés, certains qui étaient plus jeunes que moi d'ailleurs. Et ça m'a travaillé, et j'ai dit, Seigneur, si je ne t'avais pas accepté, qu'est-ce que je serais devenu ? C'est vrai qu'à l'époque, je travaillais dans le fisc. Alors, en général, quand je dis ça, je vois les gens qui ne sont pas trop en règle. Ça allait d'aller à peu près. Hein? Et j'ai travaillé donc quelques années dans le fisc. D'ailleurs, si j'avais continué, nul doute, je serais devenu le ministre des Finances en Angleterre. Mais bon, ça, c'est une théorie à moi. Que je ne peux pas prouver. Hein? Et donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je serais devenu si je ne t'avais pas accepté ? Et un jour, eh bien, dans ma lecture normale de la Bible, je lisais justement dans les psaumes à ce moment-là, et je suis tombé sur le psaume 119, verset 92, et tout d'un coup, il y a eu comme un flash dans mon cœur. J'ai senti que le Seigneur était en train de me parler. C'était la réponse à la question que j'avais posée au Seigneur. Hein, qu'est-ce que je serais devenu si je ne t'avais pas accepté, hein? Et ce verset me donnait la réponse. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais été péri dans ma misère. Et j'ai ressenti nettement dans mon cœur que si à l'époque je n'avais pas donné mon cœur au Seigneur, je serais déjà, il y a 20 ans, mort et enterré. Hein? Et je dis merci Seigneur, je crois que Dieu m'a donné un sursis, mais peut-être que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, peut-être même tous, si on regarde près dans ce monde où il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses horribles, qui se passe, eh bien, oui, peut-être que si vous êtes là, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a donné un sursis. Alors je dis, aide-moi en être conscient, aide-moi à te servir finalement, à ne pas gaspiller ce temps que tu me donnes. En plus, il y a un temps pour tout, même pour les loisirs, il y a un temps pour tout, l'Ecclésiaste l'a dit, hein. Mais surtout un temps pour suivre le Seigneur, et ça on le fait tout le temps. Que Dieu soit loué, puisque Jésus est avec nous tous les jours et toute la journée, hein, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit loué. Et ensuite, nous arrivons à Salomon. Je n'ai pas de verset particulier. Salomon, l'homme qui a eu beaucoup d'épouses, le moins qu'on puisse dire, l'homme qui avait la fortune incroyable, invraisemblable. Quelle est la chose importante qui nous frappe dans la vie de Salomon ? Eh bien, pour moi, Salomon, c'est l'homme qui, au départ, a fait le bon choix. Vous vous rappelez qu'il a eu un songe dans la nuit. Dieu s'est manifesté à lui. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit quelque chose d'inimaginable, d'invraisemblable. Dieu lui a dit, écoute, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Mes amis, je ne sais si c'était moi, si c'était vous, qu'est-ce qu'on aurait demandé, hein? Qu'est-ce qu'on aurait demandé? Il y a certains qui auraient dit, Seigneur, je veux m'appeler Bill Gates. Hein? Je voudrais tellement des richesses, la gloire, et, tout ce que l'argent peut gagner, que peut acheter. Mais Salomon n'a pas demandé ça, vous vous rappelez? Il n'a pas demandé une longue vie, la santé, il n'a pas demandé des richesses, etc., etc., la mort de ses ennemis. Il a demandé la sagesse. La sagesse pour bien faire les choses, pour bien diriger l'œuvre de Dieu. Il a demandé la sagesse. Il aurait pu demander autre chose finalement. Peut-être qu'il aurait pu même demander des choses qui auraient plu au cœur de Dieu s'il avait demandé un cœur aimant. Je crois que ça aussi, ça aurait touché le Seigneur. Mais il a demandé la sagesse. Je ne sais pas combien de gens auraient demandé ça. Probablement très peu de gens. Mais c'est ce qu'il a demandé. Et ça a tellement plu au cœur de Dieu que Dieu a dit, alors là seulement, je suis d'accord avec toi. Hein, je paraphrase là. Et parce que tu as fait le bon choix, eh bien, je donnerai tout le reste aussi. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Eh bien, ne demandez pas, ne cherchez pas tout ce qui va venir automatiquement si vous faites le bon choix. C'est comme le code de la route, c'est une histoire de priorité. Il faut demander ce qui va plaire au Seigneur. La sagesse, un cœur rempli d'amour, n'est-ce pas, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est des choses qui vont plaire à Dieu. Et si ça plaît à Dieu, eh bien, vous n'aurez pas à vous soucier du reste. Hein. Ça viendra. Que Dieu soit loué. Seulement ce garçon qui a fait le bon choix, que Dieu soit loué. Maintenant, il y a aussi les fils de Corée. Je demande aux frères, notre gentil cinéaste, d'afficher nombre 26-10. Les fils de Corée, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Vous connaissez probablement peu de choses sur eux. Sur Moïse, sur Salomon, vous êtes probablement incollables. Mais sur les fils de Corée, peut-être moins. Eh bien, là, il faut remonter un peu dans le temps. Et ce verset nous montre quelque chose qui me semble très important, les concernant. Eh bien, ce verset dit, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. » Ils servirent au peuple d'avertissement. Et le verset suivant, frère, si vous voulez, verset 11, il est dit, les fils de Corée ne moururent pas. Et parce que les fils de Corée ne sont pas morts dans ce drame qu'on va regarder rapidement, eh bien, eux ou leurs fils, leurs petits-fils plus tard, ont pu écrire les psaumes que nous avons dans notre Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, vous rappelez que eh bien, tout ça, c'est dans le cadre de cette rébellion, cette révolte, eh bien, avec ces individus, Dathan et Abiram, et Corée, qui ont voulu chasser Moïse, qui ont voulu les remplacer. Il y avait plus qu'une guerre civile. Eh bien, il y avait toute une révolte, une rébellion, il y avait tout un paquet de gens, 250... Des gens influents, importants en Israël se sont joints à eux. Et pour Moïse, ça allait mal. Et Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment agir? Voilà, j'ai tout ce monde qui veulent m'éjecter, qui veulent se débarrasser de moi. Qu'est-ce que je fais? Hein? Et Dieu est intervenu. Il a dit, voilà, ceux qui sont avec, eh bien, les rebelles, ils vont d'un côté. Et ceux qui sont pour l'Éternel, ils vont de l'autre côté. Et Dieu est intervenu. Mais alors, comment? Ouf. Eh bien, là, il est dit que la terre c'est Saint-Léon II. Et tous les rebelles sont descendus dans le séjour des morts. Vous vous rendez compte? Le feu est venu aussi les ravager. Ça a dû être terrible. Terrible. Et ceux qui étaient du bon côté, ils ont dû voir ça. Ils ont dû être saisis, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est dit, le verset dit, et ça servit d'avertissement. Mais les fils de Corée ne sont pas morts dans ce drame. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que, et c'est là qu'il nous donne le bon exemple, frères et sœurs, eh bien, malgré le fait qu'ils étaient de cette famille, malgré le fait qu'ils aimaient leurs parents, malgré le fait que, eh bien, ils auraient pu se ranger tout de suite du côté de leurs parents, et à un moment donné, ils ont dit non. Ils ont dit, écoute papa, on t'aime beaucoup et on te respecte et tout, mais il y a quand même des limites. Et nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ce que tu fais. On te souhaite aucun mal, nous on te souhaite aucun mal, et on t'aime beaucoup, mais on ne peut pas te suivre dans ce que tu fais. Eh bien, donc ils se sont rangés du bon côté, et heureusement pour eux. Et chers amis, c'est là qu'il nous laisse un exemple à suivre aujourd'hui. Parce que ce soit de la famille, que ce soit dans notre domaine, le travail, dans la société en général, eh bien nous vivons, et vous le savez autant et peut-être même mieux et plus que moi, nous vivons dans une société où il faut quelque part, il faut tirer la ligne. Et il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Nous voulons suivre le Seigneur. Et on ne peut pas suivre le courant tout le temps. On veut, c'est vrai, être conciliable, on veut arranger les choses, on ne veut pas être têtu, mais il y a quand même un moment où il faut dire non. Il faut dire non à la magouille. Il faut dire non au péché. Il faut dire non eh bien, à tout ce qui se pratique et contre les choses du Seigneur. Il y a un moment où il faut dire non, on ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre. Il y a un moment où il faut prendre position pour les choses de Dieu, pour ne pas être emporté par la vague de révolte, d'impureté, de choses ignobles, de mensonges, etc. Tout ce qui se pratique couramment et qui est même parfois carrément approuvé, eh bien, il y a un moment où il faut dire non. Non, non, moi je vais suivre le Seigneur. Même dans le travail, dans les études, à l'école. Ça me rappelle d'ailleurs cette anecdote, mais qui est vraie, une histoire vraie, de ce professeur qui enseignait les sciences, et un homme complètement athée, mais en plus qui ne respectait absolument pas les croyants. Et au début de l'année scolaire, c'était entré dans les us et coutumes. Il le faisait chaque année. Quand il avait ses étudiants devant lui, il affichait ses couleurs dès le départ en disant, voilà, Dieu n'existe pas et je vais vous le prouver, Dieu n'existe pas. Et chaque année, il prenait une ampoule qu'il laissait tomber sur le carrelage et il disait, voilà, j'ai une ampoule que je vais laisser tomber sur le carrelage. Je dis, si Dieu existe, il va empêcher cette ampoule de se casser. Et si cette ampoule se casse, c'est que tout simplement Dieu n'existe pas. Voilà. Et il faisait chaque année. Et l'histoire dit que cette année-là, il y avait au milieu des étudiants un véritable chrétien, un jeune véritable chrétien. D'ailleurs, je me réjouis de voir ces jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils sont mes petits-enfants, deux d'entre eux, mais je me réjouis pour cet enthousiasme, pour zèle. Et dans l'assistance, il y avait un véritable chrétien. Et il a dit, excusez-moi, professeur, mais avec tout le respect que je vous dois, moi je suis chrétien, je sais que Dieu existe, je ne vous suis pas. Et pour pour une fois, le professeur était un peu saisi parce qu'il n'avait jamais eu une intervention de cette façon-là. Ah bon? Bon, ben, écoutez, je vais laisser tomber. Je lui ai dit, voilà, c'est un dieu, ben, il empêche l'ampoule de se casser. Et ça faisait des années qu'il faisait cela. Et chaque fois, bien sûr, l'ampoule se cassait, hein, sur le carrelage. Et il laisse tomber son ampoule. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vraiment su. Est-ce que quelqu'un a ouvert la porte? Il y a eu un peu courant d'air qui est passé? Ou est-ce que Dieu a fait carrément le miracle, mais dans le passé, il ne l'avait jamais fait? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cet homme a mal placé son pied? Toujours est-il que l'ampoule est tombée sur sa chaussure et ne s'est pas cassée. Nous avons un Dieu qui a un peu le sens de l'humour, je crois aussi. Hein? Et oui, chers amis, eh bien oui, il y a des moments où il faut prendre position. Ce jeune, c'était courageux de faire ça. Il a pris position, il risquait de se faire ridiculiser. Et c'est ce qu'espérait le professeur, en fait. Mais Dieu, il voit tout. Il intervient. Que son merveilleux nom soit loué. Amen. Ensuite, vous avez Asaph. Hein, on pourrait... c'est le psaume 73 qui nous intéresse. Asaph était un des chantres à la reine de, au règne de David. Et Asaph était un garçon troublé. Il ne comprenait pas. Si vous lisez, on ne va pas tout lire, ce serait trop long. Mais c'est le psaume 73 qui nous parle de ses états d'âme. Il était troublé. Parce que pour lui-même, il dit, il essayait de plaire à Dieu, de faire ce qui était bien, mais il avait des problèmes, il avait des soucis. En plus, il voyait que tous les méchants, enfin beaucoup du moins, semblaient réussir. Ils n'avaient jamais des problèmes de santé, ils avaient les comptes en banque bien remplis, et ils étaient tranquilles, ils n'avaient pas de soucis apparemment. Et moi, j'essaie de plaire à Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je ne comprends pas. C'est tellement injuste. Et c'est vrai, frères et sœurs, que ça n'a pas changé, nous sommes dans un monde tellement injuste. Tellement injuste. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, il y en a 36. Hein? Notre monde est tellement injuste. Et Asaph, il ne comprenait pas, il était même troublé. Et à un moment donné, il est dit dans le psaume, jusqu'à ce que je pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Il a compris que à la fin, Dieu, je ne sais pas si j'ose dire la phrase suivante, Dieu sait régler ses comptes. Enfin, je l'ai dit quand même. Hein? Dieu est un Dieu juste et un Dieu patient, lent à la colère, riche en bonté, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il est dit. Et même si Dieu, entre guillemets, ne règle pas ses comptes tout de suite, eh bien, il y aura quand même un jugement final. Et c'est là que tout d'un coup, le psalmiste a compris, Asaph a compris. Et ça, on se pose la question. Et c'est là, ça relève de la souveraineté de Dieu. Moi, je me suis souvent posé la question, mais je n'ai pas la réponse. Pourquoi il arrive certaines choses à des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui marchent avec lui, et à d'autres, apparemment, il ne leur arrive rien, etc. C'est une question qui relève de la souveraineté de Dieu. Je vois dans la Bible, hein, Pierre, il est sorti de prison avec l'ange, Jacques, son frère, était décapité par Hérode. Pourquoi l'un? Pourquoi et pas l'autre? Jean-Baptiste était en prison, Jésus n'a rien fait pour le sortir de là, apparemment, rien. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, vous avez Daniel et ses trois amis, ils sont jetés dans le feu, mais Dieu les sort de là. Il y a des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu, nous n'avons pas toujours la réponse. Mais nous savons que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il n'y a pas d'iniquité en lui. C'est la base même. Si tout d'un coup vous pensez que Dieu est injuste, ben c'est fichu, excusez-moi le mot. C'est terminé pour vous. Notre Dieu est un Dieu juste. Mais en même temps, il n'est pas toujours obligé de nous donner toutes les explications. Pas maintenant. Plus tard, nous verrons. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais pour l'instant, on ne sait pas toujours. On ne connaît pas toujours les réponses. On ne connaît pas toujours les réponses. Mais nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons qu'il y aura effectivement les mises au point, admettons, à la fin. Hein, Asaph était comme ça. Et en même temps, il y avait Étham. Hein, on peut... Lui, il a écrit donc aussi un seul psaume. C'est le psaume 89. Qui était Étham? Eh bien, en regardant les peu de détails que nous avons sur lui dans la Bible, nous découvrons qu'il était en même temps avec Asaph, un des chantres et un des percussionnistes, eh bien, à l'époque de David. Il était un homme connu pour sa sagesse, son intelligence, puisqu'il est dit que Salomon le dépassait. Vous trouvez ça dans 1 Roi 4, 31. Il était connu pour son intelligence, un genre d'intellectuel de l'époque, mais il était dépassé par Salomon. Et son nom veut dire constant, fiable. Et puisqu'il était percussionniste, eh bien, c'est un homme qui savait la bonne mesure. Vous savez, c'est important dans un groupe, dans un orchestre, c'est très important. Hein? Et ici, bon, il n'y avait pas... Il n'était pas le percussionniste ce matin. Il n'a pas percuté ce matin. Hein? Mais quand il est là, le percussionniste, le batteur, c'est quand même très important. Hein? C'est très important parce que lui, s'il est à côté de la plaque, comme on dit, ça va aller mal. Je me rappelle quand nous étions en poste à Mont-de-Marsan, dans les Landes, on était en charge de l'église pendant 22 ans. Et en tout, nous sommes restés 33 ans dans les Landes. Et à un moment donné, il y avait un jeune qui s'était converti, et c'est très bien, il était très zélé, il aimait le Seigneur, et il témoignait beaucoup dans la rue et tout cela. Mais quand on chantait les cantiques, et là-bas chez nous, on avait l'habitude de taper des mains et tout ça, au rythme des cantiques. Mais lui, il était toujours à côté. Alors, c'était gênant. C'était gênant. Je crois que Cyril doit savoir de qui je parle. Il était toujours, peut-être pas toujours, mais souvent, à côté de la mesure. Alors, ça perturbait. Hein? Et à un moment donné, j'écoute, j'ai dit... est-ce que tu peux faire une chose? Bien, ne pas taper des mains. Taper des mains dans la mesure, mais pas à côté. Hein? Alors, mais il avait du mal. Et il a fallu que j'insiste. Parce que franchement, il perturbait tout le chant. Après, ça s'est arrangé. Mais je dis cela parce que, voyez-vous, Étham, eh bien, était un garçon qui avait la bonne mesure. Hein, il n'était pas contre-courant, il n'était pas contre-temps. Hein, on pouvait compter sur lui. Hein, et je pense que c'est là la chose qui nous laisse à réfléchir là-dessus. Eh bien, dans une église, on a besoin de gens fiables d'abord. Hein, pas des gens qui disent une chose et ensuite ils ne le font pas ou ils font encore pire, tout le contraire. On a besoin de gens fiables. Hein? Je sais que partout où nous sommes passés dans le service de Dieu, eh bien, les plus gros problèmes qu'on a eus étaient avec des gens qui étaient toujours à contre-courant. Qu'on ne soit pas toujours d'accord, ça c'est admis, c'est normal. Hein? Mais quand quelqu'un est constamment et en permanence à contre-courant, c'est parce qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas bon. Hein? Et c'est ce qui provoque, suscite toutes sortes de problèmes, de malaises, des gens sur lesquels on ne pouvait pas compter. Je me rappelle un jour, on avait une réunion un peu spéciale, et il y avait une certaine jeune sœur de l'Assemblée qui a dit « Est-ce que tu ne peux pas déplacer cette réunion parce que c'est une heure, ça nous dérange ?» Et elle voulait une heure qui dérangeait d'autres, et moi aussi, mais bon, pour la contenter, pour essayer d'avoir, ne pas avoir des problèmes, on était d'accord. On a déplacé l'heure de la réunion, ça m'a dérangé un peu, mais bon, j'ai dû m'arranger. Ça dérangeait d'autres, mais bon. La réunion arrive, l'heure arrive, on était tout le monde là, sauf elle. Tout d'un coup, pour je ne sais pas quelle raison, elle n'était plus là. Nous, on s'était décarcassés, n'est-ce pas, c'est pour ça que j'ai une carcasse un peu bizarre, oui. On s'est décarcassés pour essayer de lui faire plaisir, de l'arranger dans son planning, dans son emploi du temps. Le moment venu, elle n'était pas là et n'a jamais eu une explication et des excuses. N'a jamais eu d'excuses. Hein? Eh bien, évidemment, vous voyez, eh bien, Etam, lui, était fiable. Il était toujours dans la bonne mesure. Eh bien, on pouvait compter sur lui. Il était sage. Hein? Il était connu pour sa sagesse. Eh bien, on a besoin de gens comme ça dans les églises et que Dieu vous en donne. Hein? Amen. Et je termine ces quelques réflexions avec David. C'est lui qui a écrit le plus, 73. Peut-être qu'il était, peut-être quelques anonymes étaient aussi de lui, on ne sait pas. Donc c'est lui qui a écrit le plus. Sur les 150, il a écrit au moins, eh bien, 73, peut-être même un peu plus. Un homme comme ça, comment résumer sa vie? Qu'est-ce qui peut nous apprendre? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui nous donne le résumé de la vie de David. Peut-être notre frère peut l'afficher. C'est dans Actes chapitre 13, verset 22. Et avec tout ce qu'a fait et n'a pas fait David, voilà ce que Dieu a retenu de lui, si ça va arriver. Le psaume, le acte 13, 22. Eh bien, c'est vrai que la vie de David n'a pas été toujours jolie. Il y a eu quand même quelques dérapages très, très malheureux, le moins qu'on puisse dire. Il a quand même commis l'adultère à un moment donné. Il a quand même manigancé les choses pour que le mari de cette femme soit tué, etc. Mais, eh bien, voilà ce que Dieu a dit. Hein, ayant rejeté Saül, Dieu leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et David, eh bien, il a fallu aussi plus d'une fois du courage. Pour faire cela, j'ai parlé vendredi soir, ceux qui étaient là et qui ne dormaient pas, se vous rappelez, j'ai parlé d'avoir du courage, prenez courage. Vous savez, quand David était là en face de Goliath, ce géant qui faisait trois fois Schwarzenegger, eh bien David, le petit jeune, il n'avait que sa fronde, mais il avait le Seigneur avec lui. Et souvent, nous, on est comme ça. On est devant des géants de ce monde, et on n'a pas grand-chose pour combattre, sauf qu'on a le Seigneur, et c'est ça le principal. Quelqu'un a dit, eh bien, une minorité avec le Seigneur est tout de suite majoritaire. Hein? Alléluia. Et donc, eh bien, voilà ce que Dieu a retenu de cet homme, de David. Eh bien, un homme selon mon cœur. Voilà, ça c'est toute une étude. Cyril va prendre au moins une bonne dizaine d'études pour développer cela, n'est-ce pas? Hein? Voilà un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Eh bien, si ça c'est pour nous aussi. Et je dis, Seigneur, voilà, je voudrais être comme David, non pas quand il a dérapé, évidemment, mais ce que tu as retenu de lui, le plus important, Seigneur, je veux être un homme selon ton cœur. Et aide-moi à accomplir ta volonté. Hein? Je sais que tout seul, je n'arriverai pas, mais justement, je ne suis pas tout seul. J'ai le Seigneur avec moi, j'ai son esprit avec moi. Eh bien, exactement comme Josué, Prends courage, eh bien, sois fort, prends courage. Dieu savait que Josué tout seul n'arriverait pas, mais il a dit, eh bien, plonge-toi dans ma parole et je serai avec toi. Eh bien, et c'est ça le principal, et ça n'a pas changé pour nous. Devant les défis qu'il y a, devant les montagnes, les géants devant nous, eh bien, nous n'arriverons jamais tout seuls. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire, mais avec lui, on peut tout faire. Que Dieu soit loué. Alors, pour moi, j'espère que vous le diriez pour vous aussi, Seigneur, je veux être un homme selon ton cœur. Aide-moi à accomplir toutes tes volontés. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur, merci pour ces moments ensemble ce matin. Nous sommes là dans toute notre faiblesse. Nous sommes des vases, des Seigneurs vides en nous-mêmes, des serviteurs inutiles. Mais avec toi, tout change complètement, radicalement. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Parce que pour toi, rien n'est impossible. Et tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Aide-nous dans ce monde qui va à la dérive, qui court à sa perte. Aide-nous à être tes fidèles témoins, tes fidèles ambassadeurs. Aide-nous à être de ceux qui veulent faire ta volonté. Seigneur, nous voulons prendre courage. Nous voulons être forts en toi. Seigneur, donc aide-nous. Et nous savons que c'est tout à fait selon ton désir, ta volonté. Donne-nous, comme Salomon, la sagesse, Seigneur, pour faire face aux défis de notre génération et pour faire les choses comme nous devons les faire. Seigneur, bénis ton peuple ici en Arles. Merci pour tout ce que tu as fait depuis tant d'années. Merci pour ce lieu, cette salle, ce bel outil que tu as donné à ton église de cette ville. Et aide ton peuple maintenant à aller de l'avant, en vainqueur et pour vaincre. Merci, tendre Père, au nom de Jésus. Amen.